Radio Classique et votre journée devient plus belle.
Avec cette météo-là, décrite par Mélina Fachin à l'instant, je vous souhaite une excellente journée. Nous sommes le mercredi 5 août, vous écoutez Radio Classique, il est exactement 8h.
8h, 9h, la matinale de Radio Classique avec Bernard Poirette.
Voici les titres de ce journal de 8h. C'est un drame absolument épouvantable qui a frappé hier Beyrouth en son cœur, la capitale du Liban, sur le port exactement. Deux explosions gigantesques ont fait au moins 100 morts et plus de 4000 blessés selon un tout dernier bilan qui devrait encore s'alourdir. A priori, ce sont des explosions accidentelles. La France pourrait-elle bientôt connaître une deuxième vague de coronavirus? Pour la première fois depuis le mois d'avril, le nombre d'hospitalisations en réanimation repart à la hausse. Et puis dans ce journal, vous entendrez également le témoignage d'une jeune Française enceinte qui, depuis le début de la crise, est séparée de son compagnon qui est resté en République démocratique du Congo. Plus les vendanges qui sont en avance encore cette année, grâce ou à cause d'ailleurs de conditions météo tout à fait exceptionnelles.
Radio Classique.
À la une ce matin, donc, je vous en prie, Mélina Fachin.
L'Orient, le jour, un seul mot, l'apocalypse. Les images de Beyrouth ce matin encore sont terrifiantes. On croirait à des scènes de guerre. Hier, en fin d'après-midi, deux énormes explosions ont retenti dans la capitale libanaise. Pour l'instant, selon le dernier bilan, encore certainement provisoire de la Croix-Rouge, au moins 100 personnes sont mortes et plus de 4000 ont été blessées. Écoutez le témoignage d'Ahmad Yassine, un habitant de Beyrouth qui a pu contacter Rémi Vallèze.
Je rentrais du travail quand j'ai entendu une énorme explosion. Je n'ai pas réalisé tout de suite. Je pensais à un accident ou quelque chose qui m'avait percuté. Mais peu après, ma voiture a sauté sur elle-même. Du verre s'est répandu partout. J'entendais des gens crier. Et puis, il y a eu un gigantesque nuage, une mauvaise odeur. Les premiers moments étaient horribles. Je me suis demandé, est-ce que c'est la fin? Est-ce que je vais mourir? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Aujourd'hui, Beyrouth est en partie détruite. Autour de moi, il y a des gravats, des débris de verre partout, des voitures retournées. C'est horrible.
Alors, on va faire le point sur ce qu'on sait ce matin de ce drame. A priori, Charles Bonner, c'est un entrepôt dans le port qui a explosé.
Oui, il est 18h environ hier soir après-midi. À Beyrouth, sur le port, un incendie est déclaré après une première explosion dans un entrepôt. De la fumée se dégage quand soudain. Une explosion cataclysmique. Un champignon de fumée se crée dans le ciel. La force du choc souffle les bâtiments sur plusieurs dizaines de mètres. Les vitres volent en éclats dans presque toute la ville. Le souffle est ressenti jusque sur l'île de Chypre à 200 km. L'Institut américain de géophysique de Virginie estime que cette explosion est équivalente à un séisme de 3,3 sur l'échelle de Richter. Selon les premiers éléments connus, l'origine de cet incendie dans cet entrepôt, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Il se présente sous forme de granulés, c'est la base de nombreux engrais, mais au contact du feu, il peut exploser. Le nitrate d'ammonium avait d'ailleurs également provoqué l'accident de l'usine AZF de Toulouse en 2001. La cargaison qui a explosé hier avait, semble-t-il, été confisquée depuis 6 ans, stockée sans mesure de précaution. Le Premier ministre libanais promet des sanctions.
Merci Charles Bonner, et évidemment, ce drame a choqué et ému une large partie de la communauté internationale, à commencer par la France, Philippe Gault.
Oui, la France dont on connaît l'attachement historique avec le Liban a en effet réagi très vite. Dès 20h40, Emmanuel Macron a posté un premier tweet dans lequel il exprimait sa solidarité avec le peuple libanais et annonçait, je cite, que des secours et des moyens étaient en cours d'acheminement. Dans la nuit, après un message de soutien rédigé en arabe, le chef de l'État précisait que la France enverra dès aujourd'hui à Beyrouth un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Sur place, l'ambassade de France a mis en place un numéro d'urgence pour les ressortissants français et leurs familles au 00 9611 420 292. Proposition d'aide également en Europe. Angela Merkel et Boris Johnson notamment, qui ont eux aussi proposé aide et assistance. La chancelière allemande précisant que des membres de son ambassade à Beyrouth avaient été blessés. Émotion et proposition d'aide évidemment au Moyen-Orient. C'est notamment le cas d'Israël, pourtant techniquement en état de guerre avec son voisin, mais qui a spontanément proposé dès hier soir une aide humanitaire et médicale. Mobilisation solidaire également dans les pays du Golfe qui ont promis d'importantes aides financières. Symboliquement, la célèbre tour Burj Khalifa de Dubaï a même été illuminée aux couleurs du drapeau libanais, tout comme les pyramides de Gizeh en Égypte. Et puis à Washington, dans une déclaration officielle, le secrétaire d'État Mike Pompeo a exprimé son émotion et proposé aide et assistance des États-Unis. États-Unis, c'était quelques heures avant une intervention publique du président Donald Trump qui s'est exprimé sur le sujet.
Merci Philippe Gouet. Donald Trump qui d'ailleurs a rapidement estimé que ces explosions à Beyrouth ressemblaient plutôt à un terrible attentat. Il affirme que des experts militaires lui ont parlé d'une espèce de bombe, mais il a été contredit quelques heures plus tard par le département de la défense américain. Je cite, « Rien n'indique qu'il s'agit d'une attaque. On ne sait pas d'où Donald Trump tient ses informations. » Le Liban a annoncé aujourd'hui une journée de deuil national.
Radio Classique, le journal. Mélina Fachin.
Le front du coronavirus et la France. La France apparaît de plus en plus menacée par une éventuelle deuxième vague de l'épidémie.
Peut-être à l'automne ou cet hiver, nous pouvons basculer à tout moment, a averti hier le Conseil scientifique. La situation est sous contrôle pour l'instant, mais le virus circule à nouveau de façon active. Il y a du relâchement dans l'application des gestes barrières. Et un chiffre inquiète, Rémi Pfister, le nombre des hospitalisations en réanimation est à nouveau en légère hausse.
Des cas de Covid graves admis en réanimation, une tendance qui est à la hausse pour la première fois depuis le mois d'avril. Un frémissement certes, mais qui s'observe également dans les services d'urgence, selon le médecin François Braun.
On sait que c'est un indicateur prédictif de ce qui peut se passer dans les 10 à 15 jours suivants. Et tout l'enjeu est justement de dépister le plus tôt possible une reprise épidémique. Quelque part, les admissions en réanimation, c'est presque trop tard si le chiffre augmente de façon importante.
Pour l'instant, pas de quoi tirer la sonnette d'alarme, environ 400 lits de réanimation sont occupés par des patients Covid sur les 5000 que compte le pays, car le port du masque permet justement d'atténuer la courbe des infections, selon l'épidémiologiste Martin Bliacher.
On sait que la plupart des contaminations ont lieu dans les lieux clos, donc le port du masque dans les lieux clos devrait permettre de réinfléchir la courbe et donc de réinfléchir aussi les hospitalisations pour ne pas avoir d'embouteillage et même avoir le minimum de patients hospitalisés ou en réanimation. Si ça arrive, que ce soit anecdotique, et qu'on soit jamais en capacité de déborder nos capacités. C'est exactement ça. C'est la maîtrise de l'épidémie.
Ce que craignent le plus les hôpitaux, c'est une augmentation exponentielle des cas graves durant l'été, à un moment où les soignants sont en congé ou bien à bout de souffle.
Et je vous rappelle que l'invité de la rédaction ce matin, à 8h15, sera le professeur de médecine Jean-François Toussaint.
Après Quiberon, Lille ou encore Biarritz, Toulouse rend à son tour le masque obligatoire dans l'espace public à partir d'aujourd'hui. Ça devrait aussi être bientôt le cas à Paris, dans les zones les plus fréquentées, comme les quais de Seine, les marchés ouverts ou les parcs. La maire, Anne Hidalgo, a en effet demandé au préfet de police d'appliquer cette mesure.
Eux étaient un peu les oubliés de la crise sanitaire, dirons-nous. Emmanuel Macron, du coup, est allé à leur rencontre, à la rencontre d'auxiliaires de vie. C'était hier, en milieu de journée, à Toulon.
Le président de la République a tenu à saluer l'engagement de ses soignants, ses soignantes qui aident à domicile les personnes âgées et handicapées en première ligne face au virus ces derniers mois.
Et c'est pourquoi aujourd'hui je veux officialiser la décision qui a été prise de reconnaître pleinement le rôle qui a été celui de justement toutes les aides à domicile durant la période du Covid.
Une prime de 1 000 euros sera donc versée aux auxiliaires de vie d'ici Noël, ce qui représente une enveloppe de 160 millions d'euros financée moitié par l'État, moitié par les départements.
Et pendant la crise sanitaire, avec le confinement, vous le savez, nous avons été très nombreux à être séparés de nos proches et des gens que nous aimons. Et bien certains, imaginez-vous, ne se sont toujours pas retrouvés depuis le mois de mars.
Des milliers de couples binationaux attendent encore impatiemment la réouverture des frontières. Sur Twitter, ils expriment leur frustration, leur souffrance, loin de l'être aimé, avec le mot-clé « Love is no tourism ». Dorine, une Française expatriée en République démocratique du Congo, a rencontré là-bas l'homme de sa vie. Enceinte de 7 mois, elle a dû rentrer précipitamment en France début mars et n'a plus vu son compagnon depuis.
On a quand même le plus grand engagement qui soit, c'est-à-dire construire une famille, avoir notre premier bébé. C'est quand même ce qui nous lie toute une vie, mais ça ne suffit pas. J'avais contacté aussi l'ambassade à Goma qui m'a précisé que même si mon compagnon faisait une reconnaissance anticipée de paternité, ça lui donnait pas le droit d'acquérir un visa, que ça ne le faisait pas reconnaître comme mon conjoint en fait par les autorités françaises. Et voilà, il reste que 2 mois avant l'accouchement. On a vécu déjà toutes les grandes étapes des échographies séparément. Le ventre s'arrondit, il n'est pas là pour sentir les premiers coups de bébé. Donc, il va quand même falloir envisager sérieusement qu'on vivra l'accouchement séparément.
Témoignage recueilli par Sarah Loubacouche pour Radio Classique. Dans le sud-est de la France, l'incendie près de Martigues n'est toujours pas maîtrisé ce matin, mais il ne progresse plus. Plus de 1025 hectares sont déjà partis en fumée et 2700 personnes ont dû être évacuées. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place hier.
Jean Castex, lui, se rend tout à l'heure dans le Cher à la rencontre des viticulteurs qui, eux aussi, ont énormément souffert de la crise.
Le Premier ministre devrait annoncer de nouvelles aides au secteur. Les viticulteurs qui, cette année, sont déjà pour beaucoup au travail. Les vendanges sont en avance. Certaines ont démarré fin juillet. Une précocité due à des conditions météorologiques clémentes. Ça a ses avantages et ses inconvénients, Camille Schmitt.
Frédéric Sacomand n'en revient pas. Les premières grappes de muscat ont commencé à être vendangées dès vendredi dernier.
C'est la première fois que nous vendangeons en juillet.
Deux semaines d'avance par rapport aux autres années, il faut dire que dans son vignoble des Costières de Nîmes, les conditions météo ont été parfaites.
On a eu un hiver très doux, donc la végétation s'est réveillée très tôt. Et ensuite, de l'eau au bon moment en quantité suffisante. Et ensuite, des belles journées de soleil.
Il compte produire plus de 80 000 hectolitres de vin grâce à cette récolte, soit 25% de plus que l'an dernier. Et il l'assure, la qualité sera au rendez-vous.
On observe des niveaux de maturité homogène. Donc on a des grains qui sont effectivement bien charnus, plutôt bien gorgés de jus. Donc on va avoir une jolie vendange.
Mais une vendange précoce vient aussi avec son lot de problèmes. Patrick Vasseur est viticulteur en région bordelaise. Chez lui aussi, on est en avance, alors il a fallu s'adapter.
Le souci, c'est qu'au mois d'août, habituellement, on aime bien avoir une coupure entre la fin des travaux des vignes et puis les vendanges pour pouvoir souffler. Et là, ça va être très raccourci parce qu'il faut préparer le matériel, il faut préparer les caves, c'est-à-dire nettoyer les cuves, vérifier le matériel. Donc effectivement, au niveau organisation, ça pose quelques petits soucis. Quoi.
Il craint surtout qu'à l'avenir, le dérèglement climatique ne provoque des épisodes de sécheresse en série qui viendraient fragiliser son vignoble.
Et ce reportage de Camille Schmitt conclut ce journal de 8h qui était présenté par Mélina Fachin. Mélina qui revient à 8h30 pour le rappel des titres. À tout à l'heure,
à tout à
Mélina.
L'heure.
Il est 8h11 exactement sur Radio Classique. À suivre, l'édito politique de Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Comment les nouveaux maires écologistes élus le 28 juin dernier s'en sortent-ils? Et au-delà, rien que du Covid, des masques et des tests. Le point sur la pandémie qui menace de redémarrer, pourquoi pas, avec le professeur de médecine Jean-François Toussaint.